déjà écrit, ce programme hebdomadaire de manière habituelle. Donc mardi nous sommes là, ce mardi nous commençons un nouvel enseignement avec la pastorine, comme a dit papa Richard, avec pastorine Lévi. Et jeudi nous sommes là dans le moment de prière, jeudi et Togo, nous venons en famille. Et le dimanche comme celui-ci, nous sommes également là. Et tu me sois permis, avant d'entrer dans le message, d'accueillir une personne qui nous est très chère. Il fait partie des premiers soldats ici à Philadelphie, Boma. Donc, quand l'église n'était encore une cellule, il était là. Quand on a commencé à trouver un endroit, il était là. Quand on était à l'amicale sportive, il était là. Arrivé au secours, il était là. Il était après, pour des raisons professionnelles, lui et sa femme étaient partis à Matadi. Et Dieu a fait grâce, ils sont retournés ici. Je cite papa Odibewa, que nous pouvons acclamer. Oui, nous sommes maman Blandine. Maman Blandine. Papa Odibewa, regardez les oreilles. Ok, ok, donc le ménagement est tout consolé. Papa Bewa, c'est l'un de nos premiers soldats. Donc, quand je le vois, persévérance, je vois la bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous amène encore très loin. Que Dieu n'oublie pas tous ces sacrifices que vous n'avez cessé de faire pour son Église. Amen. Ce matin, vous avez votre Bible. Je vous prie de pouvoir l'ouvrir dans le titre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au quatrième chapitre et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Si cela ne vous dérange pas. Est-ce que vous avez béni après Jean avec moi? Et il a donné le saint comme apôtre, le autre comme prophète, le autre comme évangéliste, le autre comme pasteur et docteur pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur rise dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La grande question, cette semaine, c'est celle de me demander, Seigneur, quel message apporter à ton peuple après toute cette semaine que nous avons connue avec l'apôtre Roland Atalo. Quel message apporter? Quelle direction prendre? Et la question était tellement profonde, je me disais, tellement voir orienté. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons ensemble commencer cette petite nouvelle série d'enseignement qui est intitulée « La vérité dans la charité ». Si ça ne te dérange pas, tu peux le répéter après moi. « La vérité dans la charité ». La vérité dans la charité, ça touche un petit peu les notions de rhétorique. Ça touche un peu la poésie, parce que ça rime, la charité, la vérité. Mais pourquoi cela? Pour que nous puissions retenir cela. Très bien, la vérité dans la charité. C'est ça ce que l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens dans le 15e chapitre, plutôt 15e verset de Éphésiens 14. Il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ, à celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc cet épître, Paul l'a adressé aux Éphésiens. Quand est-ce que Paul a écrit dans cette épître? C'est aux alentours des années 60 et 63, quand Paul a adressé cette épître. Il était encore en prison, raison pour laquelle cette épître est qualifiée d'épître de captivité. Paul était encore en prison quand il écrivait cette épître. Et dans la liste des épîtres de captivité, il y a l'épître de Paul à Philémon, il y a l'épître de Paul aux Colossiens et aussi l'épître de Paul aux Philippiens. Et dans cette liste, Éphésiens également fait mention. Le thème central de cette épître quand Paul l'écrivait. Des gens devaient savoir que chaque livre de la Bible a un thème. Même déjà la Bible elle-même dans son entièreté a un thème. Le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et chaque livre a un thème. Et le thème de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est Église épouse de Christ. C'est dans cette épître que l'apôtre Paul donne le mystère caché de tout temps. C'est dans cette épître que l'apôtre Paul essaie de nous expliquer comment est l'Église. Et c'est dans cette épître que l'apôtre Paul est en train de donner les leçons qu'il faut pour équiper les chrétiens qui font partie de l'Église. Ici, dans cette épître, Paul présente une vision équilibrée de l'Église et aussi son importance dans les plans de Dieu. Parce que l'Église revêt une importance très capitale dans les plans. Et quand nous regardons l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître à caractère doctrinal. Parce qu'il y a des fondements doctrinaux qui sont dans cette épître. La plus grande partie de l'épître aux Éphésiens est consacrée aux doctrines. L'apôtre Paul parle de la doctrine. Et le reste de la partie de cette épître, l'apôtre Paul a consacré cela pour dépeindre notre position en Christ. Et c'est ainsi que dans cette épître, Paul parle plus de nous en Christ. Il dépeint notre position en Christ. Et pas seulement ça, l'apôtre Paul, vers la fin, nous invite encore à pouvoir réunir toutes les conditions pour jouir de notre statut d'enfant de Dieu. Et si vous êtes un vrai lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a une destination très particulière liée à l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans cette épître, l'apôtre Paul martèle sur la maturation des chrétiens. Son grand souci, c'est de voir des chrétiens devenir matures. Son grand souci, c'est de les voir croître spirituellement. Donc Paul a destiné cette épître à tous ceux qui aspirent à la maturité. Vous voulez grandir dans la foi, épître de Paul aux Éphésiens est là. Vous voulez être chrétien, vous voulez être chrétien solide, épître de Paul aux Éphésiens est là. Et dans cette épître, bien aimé, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de disciplines nécessaires pour devenir un véritable enfant de Dieu. Et quand nous lisons, par exemple, le 15e verset que nous avons vu là, l'apôtre Paul confirme encore cette nécessité de la maturité chrétienne. Il dit, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc son souci, c'est de voir les chrétiens croître à tous égards. Son souci, c'est de voir les chrétiens atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça le souci de l'apôtre Paul. Et pour parvenir à cette croissance, Paul nous présente également toujours dans la même épître ce que Dieu fait pour aider l'Église à croître. Et dans les passages que nous avons lus ensemble, Paul dit, Dieu a donné, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes. Et il dit, pour le perfectionnement, pour la croissance. Donc Christ a fait des dons à l'Église pour que l'Église puisse croître. Donc le souci de Dieu, c'est de te voir croître spirituellement. Et je prie ce matin que la croissance soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a donné à l'Église tout ce qu'il faut, comme Pierre le dira dans son épître. Tout ce qui contribue à la piété, Dieu l'a mis à notre disposition. Et ici, Dieu a donné à son Église les dons. Ces dons sont des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes ou docteurs. Ici, il n'est pas question des dons spirituels qui sont des grâces faites à l'Église ou aux chrétiens. Mais ici, il est question des personnes qui elles-mêmes sont des dons que Dieu a faits à l'Église pour la croissance des fidèles, pour le perfectionnement de saints en vie de l'œuvre du ministère. Et dans ces soucis-là, Dieu a fourni aussi des principes pratiques sur la vie chrétienne. Il donne des principes. Il va même dans le foyer, au sein d'un foyer, pour donner les principes, pour donner les instructions. Quand il dit mariez vos femmes comme chrétiens, aimez l'Église, femmes soyez soumises. On est toujours dans la même épître. Et dans cette épître, l'apôtre Paul nous invite au perfectionnement. Il nous invite à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, à éviter d'être des chrétiens flottants à tout fond de doctrine. Parce que quand on est encore enfant, on va être flottant à tout fond de doctrine. Par la tromperie de son moyen de séduction. Paul dit non, 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 non. Il faut que vous croissiez à tout. C'est la raison pour laquelle il a donné tous ses dons à l'église. Croître à tous égards. Donc la destination finale de cette épître, c'est la croissance. Ce que Dieu fait dans cette épître à propos de son église, c'est la croissance. Afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Et la croissance en question doit s'effectuer à tous égards, dans tous les domaines. Et cette croissance reste un processus naturel, normal de la vie. Et aussi dans la vie, pour dire que chaque être, chaque chose qui a la vie est appelée à croître. Quand nous disons avoir la vie chrétienne, cette vie chrétienne est appelée à croître. Et Christ tient à cette maturité dans son Église. L'Église, vous savez, apparaît une organisation. L'Église est un organisme. Ça veut dire que l'Église a la vie en elle-même. Et elle est également aussi appelée à croître. Cette Église qui a commencé le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, s'est propagée à travers le monde parce qu'elle croit. L'Église est appelée à croître. Et pour sa croissance, comme je dis, tu as mis en place le moyen qu'il faut pour aider l'Église à grandir. Et non seulement ça, Dieu aussi a établi le but de cette croissance. Et ensuite, Dieu présente aussi les signes qui prouvent que l'Église a grandi. Quand nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas les bâtiments. Quand nous parlons de l'Église, nous voyons d'abord toi. C'est nous qui formons l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce ne sont pas les instruments. L'Église c'est moi, l'Église c'est toi. Et quels sont les moyens que Dieu utilise pour faire grandir son Église? Il avait dit qu'il est monté dans les hôtels, il a émené des captives et il a fait des dons aux hommes. Les moyens que Dieu utilise, ce sont les dons qu'il a fait à l'Église. Il a émené des captives et il a donné pour que l'Église croître. Et le but de cette croissance, Dieu fait que nous devenions des athlètes spirituels. Il veut nous voir grandir dans la foi. Souvent anormal quand Dieu nous regarde toujours enfants. C'est anormal aux yeux de Dieu. Imaginez-vous, ses parents qui a mis au monde un enfant. 7 ans après, l'enfant toujours la taille avec laquelle il était sorti de la ventre du ventre de sa mère. C'était un problème. Tout enfant qui ne grandit pas, oh, devient si jeune et crédible pour ses parents. Les parents mettent tout à la disposition de l'enfant pour le voir grandir. Et la même chose aussi avec l'Église. À la disposition de laquelle Dieu a tout mis pour que l'Église puisse grandir. Et la Bible dit jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. C'est ça, le but de la croissance. Que nous arrivions tous à la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la croissance, bien aimé, on sait le voir au travers des signes, à part les moyens qu'il utilise, à part le but de la croissance. Il y a aussi les signes de la croissance. Le service par lequel nous pouvons savoir qu'une église a grandi, une personne a grandi dans la foi. Et parmi les signes que l'apôtre Paul dépeint dans ce passage, il parle de la de cesser d'être enfant emporté à tout vent de doctrine. Donc l'instabilité fait partie des signes de l'immaturité. Et contrairement, la stabilité fait partie des signes de la maturité. Un des signes de la croissance dans la vie chrétienne, c'est la stabilité. Quand un chrétien est stable, on se voit la croissance aussi dans la vie de ce chrétien. La stabilité. Il n'est pas emporté à tout fond de doctrine. Il n'est pas emporté par la tromperie des hommes au moyen de séduction. Non. La stabilité. La Bible dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout fond de doctrine. Que ne voyons-nous pas ces jours-ci? Des doctrines contraires, des enseignements qui s'opposent les uns aux autres. Et ça crée la perturbation dans la tête des chrétiens. Et Paul, en écrivant cet épître aux Éphésiens, il visait une certaine stabilité dans leur marche avec Christ.
Et en étant comme ceci,
nous avons aussi besoin de cette stabilité.
Être un chrétien stable, un chrétien posé, calme, à qui l'on fait passer des reproches, qui sait se conduire, qui sait ce que Dieu attend de lui, qui sait obéir sans être contraint à la parole de l'Éternel. Et ceci, la version sévère le montre encore très bien. La question sévère dit ceci: de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par des vagues, emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habillés à entraîner les autres dans leur erreur. Là, c'est sévère qui donne cette définition. On ne sera pas ballotté par toute vague, emporté ça et là. On doit avoir en nous une certaine stabilité. C'est calme, qui s'est discerné. C'est ça ici. Et ce qui crée souvent la crise de la maturité. Parmi les signes qui prouvent la crise de la maturité, voulais-je dire, les chrétiens stables manquent de croissance. La personne ne sait pas avancer. La personne faiblit sur place. Depuis qu'il a reçu Christ, il est toujours là. Dans ce mauvais comportement-là, il est toujours là. Toujours une occasion de chute pour les autres. Toujours une pierre d'achoppement pour les autres. Il ne sait pas progresser. Le chrétien stagnant, il tourne en rond. Et l'autre chose qu'on voit auprès des personnes qui ne connaissent pas la croissance, c'est la décroissance. Qui ne connaît pas la croissance, subit la décroissance. La personne ne sait pas avancer. N'est pas avancée dans la foi chrétienne, c'est reculer. La personne régresse spirituellement. On nous appelle des rétrogrades. Elle ne veut pas aller de l'avant, cette personne. Voilà des choses qui créent la crise de la croissance. Mais que telles personnes vont devenir des sujets d'obstacles pour les autres, des pierres d'achoppement, des moyens d'occasion de chute pour plusieurs. Parce qu'un chrétien qui n'a pas atteint la maturité, c'est un vrai problème pour les corps de Christ. De par son comportement. Et souvent, cette décroissance amène la frustration auprès de ces chrétiens. La personne ne veut pas croître, elle sera toujours frustrée. Et cette frustration-là va même s'exprimer par son désir d'en vouloir à Dieu. Et de devenir aussi une source de problèmes pour les autres. En croyant que ce sont les autres qui sont responsables de sa déchéance spirituelle. Et cette crise, comme a dit l'apôtre, ça crée aussi la jalousie. Certaines personnes deviennent amères, méprisantes, jalouses de ceux des autres. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas connu la croissance. Et pour aider maintenant les chrétiens à expérimenter cette croissance, l'apôtre Paul nous présente ces deux éléments, la vérité et la charité. Il dit professons la vérité afin que nous croissions. C'est-à-dire quand nous professons la vérité, nous allons croître. Quand nous déclarons la vérité, quand nous marchons dans la vérité, nous allons croître. Donc Paul, en parlant de la vérité dans la charité, il présente les éléments déclencheurs de la croissance. Quand la vérité est avec nous, elle entraînera la croissance. Quand on est vrai, c'est déjà le point de départ pour la croissance. Et c'est ça le souci de l'apôtre Paul. Et dans son exhortation aux Philippiens, aux Éphésiens plutôt, il présente ces deux choses. Ce que nous devons faire, professer la vérité. Et comment le faire dans la charité. Ces deux choses doivent nous accompagner. La vérité que je dois professer. Et dans la charité que cela doit être fait. Donc Paul présente ce que nous devons faire et la manière de faire souvent, de le faire. Souvent nous désirons croître, mais nous ne trouvons pas un coincé par rapport à cela. Nous avons pris avancer parce que la vérité est le point à nous. Et cela crée automatiquement l'absence de la charité. La vérité et la charité détachent ces démons. Commençons avec la vérité. La vérité. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. À la vérité est attaché les objectifs, les adjectifs comme vraiment, vraiment, véritable. C'est attaché à ce qui est fait. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons la vraie version de nous-mêmes. Être vrai. Et dit, professant la vérité, nous devons être authentiques. Par la Paul nous lance une invitation pour ne pas être des chrétiens cosmétiques, des chrétiens qui se cachent derrière le make-up, mais des chrétiens authentiques. Quand on te regarde, celui que tu es, et réellement tu es. Être des vrais nous. Et Paul dit, c'est ça l'élément des grands chefs de la croissance. Être toi. C'est ne pas donner une fausse image à l'église alors que dans la société c'est une autre image que tu présentes. Être vrai. Et cette dimension d'être vrai, c'est ce que Pierre à un moment donné avait perdu. Après l'arrestation de Christ, cette femme s'approche de Pierre, lui pose la question de savoir. Toi aussi, tu es l'un de ses disciples. Pierre a cessé d'être vrai en ce moment-là. Il dit non, je ne le suis pas. Il a perdu cette identité. Il dit à la femme, je ne le suis pas. À trois reprises, Pierre a perdu ses statuts d'être vrai. Et Jésus le savait déjà. Voilà pourquoi il avait averti Pierre. Dans Jean 13, quand il disait, je t'ai dit Pierre, le coq ne chantera pas que tu m'as régné trois fois. Il y a aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cessent d'être vrais face aux difficultés, face aux épreuves, face aux tentations. Ils cachent leurs identités. On ne sait plus les reconnaître. Pierre se cache. Il dit non, 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 non. Je ne suis plus celui que j'étais là. Ce n'est pas moi. La femme, non, 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 la femme là aussi a continué à insister. Parce qu'elle connaissait la vraie identité de Pierre. Mais Pierre a régné Christ. Que les chrétiens aujourd'hui continuent à régner Christ. Face aux épreuves, face aux menaces, face à cette bénédiction qui n'arrive pas. Combien de chrétiens aujourd'hui aiment utiliser des raccourcis? Dans les raccourcis, il y a des étapes que tu sautes maintenant, mais qui, avec le temps, finiront par te rattraper. Ça finira par te rattraper. Beaucoup cessent d'être vrais. Et cette vérité, Christ l'a prouvée auprès d'une femme. C'est la femme qui était venue puiser de l'eau, près d'un puits. Appelé Jijar, le puits que Jacob avait laissé à sa postérité. Dans son entrevue avec cette femme, Jésus arrivera à lui poser la question ou à lui faire une demande. Il lui dit, va après ton mari. La femme dira, je n'ai pas de mari. Et la réaction de Christ, Christ lui dira, tu as eu cinq maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il dit, en cela, tu as dit vrai. Christ nous dit, en cela, tu as dit vrai. Christ a trouvé cette vérité dans le cœur de cette femme. En cela, tu as dit vrai. Sommes-nous vrais ou sommes-nous faux? À cette femme, Christ a dit, en cela, femme, tu as dit vrai. Tu as reconnu que celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu as reconnu que ce que tu as ne t'appartient pas. vis dans le péché. Tu as reconnu que ta manière ne plaît pas à Dieu. En cela, tu as livré. Et c'était le début d'une nouvelle expérience pour cette femme. Et toujours dans le but d'insister sur cela, la vérité dans la charité, Christ lui-même, ne cessait de dire à maître prise, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Et plus tard, il apprendra toujours à cette femme, le Père cherche qu'il adore, en esprit et en vérité. Et souvent, cette vérité est en voie de disparition au sein de nos églises. La question que l'on peut se poser, sommes-nous prêts? Sommes-nous dans la vérité? C'est quand on dit au nom d'Élisée, un jour à récit, le général syrien qu'on appelle Naaman, qui était lépreux, il est venu pour chercher la guérison. Et après avoir été guéri, il s'est aménagé Naaman. Naaman est parti et retourné avec tous ses biens. Dans le cœur de son serviteur, Géasi, quelque chose n'allait pas. Géasi va courir après Naaman pour récupérer une partie des biens. Puis il se présenta à son maître, Élisée lui dit. Élisée lui pose la question, Naaman. Viens-tu? Naaman, tu viens d'où? Écoute sa réponse. D'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Ses cœurs n'étaient plus vrais. Élisée, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Élisée lui dira en rétorquant, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu te rapprochais de Naaman pour récupérer le bien? Et aujourd'hui, les chrétiens qui vivent, qui respirent les mensonges, ils vivent dans les mensonges, ils respirent dans les mensonges et c'est un vrai blocage pour la maturité. Il dit, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Et il dit, mais mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Écoute la question qu'Élisée, Élie pose à Élisée, Élisée pose à Géasi. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers de vigne. Est-ce vraiment le temps là de prendre des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? À côté de Géasi, à côté plutôt d'Élisée, Géasi était appelé à croître. Mais par manque d'être vrai, il a tout bâti. La lèpre de Naaman va s'attacher. Et c'était sa mise à l'écart, sa mise même en quarantaine, parce qu'il n'était pas vrai. Avons-nous encore aujourd'hui les chrétiens qui sont vrais? Avons-nous encore les chrétiens dont les cœurs ressemblent à ce que la bouche dise? Ou faisons-nous face à des hypocrites? Faisons-nous face à des personnes qui jouent double jeu. On ne sait pas, tu es dans l'opposition ou tu es dans la majorité présidentielle. C'est l'appel qu'avait lancé Élie à Israël. Israël, jusqu'à quand continueras-tu à marcher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si le Baal est Dieu, suivez-le. Où sont encore les chrétiens qui t'attendent? Des personnes qui se font appeler chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. Nous vivons dans une société qui est dominée par les chrétiens. Mais au sein de cette même société, on ne voit pas la chrétienté. Ils sont là partout, dans les entreprises, les chrétiens sont là. Dans tous les services para-étatiques, ils sont là. Les chrétiens sont partout, mais sont-ils des vrais? Où ils ont fait des make-up. Ils sont des chrétiens cosmétiques. Ils nous donnent l'impression de ceux qui ne sont pas réellement. D'où vient-il Géasie? Non, ton serviteur, quelle fourmi de politesse. On demande d'où vient-il Géasie? On répondait, dit ton serviteur. Donc pour dire que je te reste soumitier, mon maître. Ton serviteur est allé ni à gauche ni à droite. Mais dans les mensonges. Ce qu'il dit lui-même est conscient que ce que je dis là, ce n'est pas la vérité. Il en est conscient. Mais là, on va m'attaquer. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont conscients que ce que je fais là, ce n'est pas ce que Dieu fait. Je n'ai jamais oublié au début de Philadelphie. Un papa qui travaillait dans une entreprise de portefeuille nous a posé la question. Il dit, pasteur, ce qui m'a eu au foot dans le bureau, bon, mais bon, tu sais là qui a voté par son foot. Par exemple, tu sais qui 800, même toi, tu as un azar na 400. Allez libre et saté. Atini sko na sungaye. Abi nama, soko sunginga, na kupesu atasa. Tipa, nana pesa na sungaye? Nasa na fati na mwepe. Soka sotu na biso. Paske, esa mapesu ki na sungiye, nena sunginga na sungaye wana. Et des fois, les personnes sont déjà elles-mêmes conscientes de leurs péchés. Elles veulent s'appuyer sur d'autres. La conscience, sa conscience lui reprochait déjà. Mais c'est la corruption. C'est la corruption. Et ces personnes chrétiennes, vivant l'Église, servant l'Église, il y a encore la question à poser à pas mal de personnes. D'où viens-tu souvent? De quel coin, de quelle maison sors-tu souvent? Gersi dit ton sang est allé ni d'un côté ni de l'autre. Or, ce qu'il ne savait pas, il a été déjà dévoilé par Dieu. Là où il y a la maturité, il y a la vérité. Et je crois que ce n'est pas pour rien que ça arrive. La dernière syllabe rime. Maturité, vérité. Là où il y a la maturité, il y a la vérité. Là où il y a la maturité, on est appelé à être vrai. Je ne donne pas une fausse apparence de moi. Mais je suis la vraie version de moi-même. Il y a des ceux-là qui donnent une bonne apparence ici à l'église, un bon chrétien, bien habillé, parlant en langue, rempli du Saint-Esprit. Mais quand on les regarde en dehors de mur de l'église, une autre personne. Que dire de Akan? Akan qui a caché les choses appartenant à Dieu. Dieu a dit, je ne causerai pas vous à l'interdit. Tout doit être consacré à Dieu. À quand regarder les objets précieux, il a dit non, 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 il faut que je les récupère. Dieu vient voir Josué pour lui dire, Josué, Israël a péché. Oh, c'est à quand qu'il avait péché. Mais en voyant Josué, Dieu dit, Israël a péché. De deux fois, les péchés des sept, peut ternir l'image de plusieurs. Les péchés d'une seule personne peut ternir l'image de plusieurs personnes. Adam a péché. Mais Dieu dit, Israël a péché. Israël n'a pas fait ce que je lui avais demandé de faire. Israël a volé. Josué convoque toute l'assemblée d'Israël et pose la question, qui a pris des choses appartenant à Dieu? Personne ne voulait se dévoiler. Même lui-même, Adam était là, sachant que c'est moi qui ai fait le mal, mais il se cache. Josué a dit, bon, ça va, on va procéder les contrôles par famille. On commence à appeler une famille après l'autre. Adam était toujours là, calme. L'auteur du crime, calme. On a commencé par clan, arrivé par tribu, jusqu'à atteindre les familles. Adam était toujours là, calme. Adam n'était pas vrai. On peut le voir très calme, mais c'est lui le coupable. Des fois, il y a chrétien, certains, mais quand tu regardes son apparence, tu auras l'impression que tu as affaire à un ange. Et pourtant, c'est un démon. Adam était calme, insoupçonnable. Josué a procédé au contrôle. Juste à ce qu'on est arrivé à la famille, à la tribu plutôt de Adam. Mais Adam, ne pouvais-tu pas te dévoiler en ce moment-là? Adam continue à se cacher. Laisse-moi te dire, tu es là, tu te caches. Dans ce département, tu fais n'importe quoi, tu te caches. Tu prétends peut-être que personne ne te voit, Dieu ne te voit, les responsables ne te voient pas. Mais laissez-moi te rappeler. Dieu te voit. Tu es l'auteur du mal, tu te caches. L'auteur de la division, tu te caches. Tu fais diviser les frères entre eux. L'auteur des conflits, tu te caches. Tu fais les comportages des uns auprès des autres, tu te caches. Mais Dieu te voit. C'est même les troubles parmi les frères, tu te caches. Mais Dieu te voit. Quand tu es responsable, tu as la face de l'agneau. Mais quand tu tournes le dos, tu deviens véritable loup. Josué dira à quand, pourquoi troubles-tu Israël? Aujourd'hui, l'Éternel te troublera. Il était là parmi les enfants d'Israël, dans l'assemblée d'Israël, calme. On faisait les contrôles, il était serein, comme s'il ne connaissait rien, comme s'il n'avait pas de problème. Calme. Et il avait fini par être attrapé. La vérité, alors que l'église de Jérusalem connaissait sa croissance, il y a un couple qui n'était pas vrai. Il y a un couple qui ne vivait plus dans la vérité. Ananias et Saphira, acte 5. Ananias et Saphira qui ont vendu leur terrain et Ananias va s'attendre avec Saphira, pour dire, nous irons mentir. Nous allons dire les mensonges à l'église. À l'époque, ceux qui vendaient leur terrain apportaient l'argent pour les apôtres. Ils faisaient cela partant de l'élan de leur cœur. Ils apportaient l'argent pour les apôtres. Ananias et Saphira vont s'arranger. Allons dire les mensonges à Dieu. Ils ont fait équipe. L'homme et la femme s'attendent. Ils complotent contre l'Éternel. Allons mentir. Y a-t-il encore des couples pareils? L'homme et la femme se mettent ensemble pour mentir. Tout le monde a un bon autotéka qui a un adé. Ou tout le monde a un autotéka qui tout le monde a un bon. Tout le monde a dit mon bon, dit mon autre, tout le monde a dit putain, L'homme et la femme n'étaient pas dans la vérité. L'homme dit, mais un homme en alliance avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie des prix et sa femme les sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs. Celui qui a été vendu, ne resterait pas-il à toi? Et après qu'il a été vendu, ne prenait-il pas à ta disposition? Tu pouvais ne pas donner à Caïn, plutôt Ananias. Mais pourquoi mentir? Oh, les dieux de toute grâce ce jour-là a ordonné l'exécution de ces couples. L'homme est mort sur les champs. Sa femme viendra, lui pose la question, elle manque comme son mari. Elle tombe aussi ses vite. La vérité dans la charité. Aujourd'hui, il y a ces blés qui est victime parce que juste à côté des blés, livrés et sévères. On ne sait pas faire la différence. Où est passée la vérité? Où est passé le vrai? Où est passé le véritable? Que dire de la charité? La vérité dans la charité. Cette charité, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour en action. Et dans la théologie chrétienne, la charité, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain qui est créature de Dieu. Et dans son écrit, l'apôtre Paul nous déplore les qualités de cet amour. Et dans la version, lui c'est bon, on parle de charité en lieu place d'amour comme dans d'autres versions. Il dit, quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, ou il se parle, qui retentit. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Vous dites que la crainteté, c'est la charité. La maturité, la vérité et la charité. Il dit même ça, quand j'ai le don de prophétie, le don de parler, quand je distribuerai tous mes biens, si je n'ai pas la charité, je me souviens. La maturité ne se mesure pas en fonction du nombre de dons spirituels qu'on a ou en fonction des temps passés dans l'église. Mais ça se mesure dans le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit promis en nous, dans les caractères de Christ. Poursuit son discours et dit, la charité est patiente. La charité, elle est parfaite. La charité, elle est pleine de bonté. La charité, dit-il, n'est pas envieuse. La charité, poursuit-il, ne se vante point, ne semble point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La vérité dans la charité. Dans la charité, il n'y a pas de malhonnêteté. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne semble point d'orgueil. La charité ne cherche point son intérêt. Elle ne s'évite point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est ça la charité. Y a-t-il encore la charité parmi nous? Entre nous, les chrétiens enviés, jaloux les uns des autres. On dit la charité, elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. Et quand nous voyons comment l'apôtre Paul a la charité. Et les mêmes apôtres, quand il a terminé dans Galates 5, 22, en parlant de fruit de l'esprit, il commence par l'amour. Et le fruit de l'esprit, l'amour. la joie, la paix. Et vous allez vous rendre compte que tous les quartiers du fruit de l'amour tournent autour de l'amour. Tous les quartiers du fruit de l'esprit tournent autour de l'amour. Là, l'apôtre Paul a dit que la charité est patiente. Ici, on dit que dans ces fruits-là, il y a aussi la patience. On dit la charité a de la bonté. Et dans le fruit de l'esprit, on voit et l'amour et la bonté. Pour dire que l'élément clé du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un seul fruit avec toutes ses parties. Il n'y a pas 9 fruits, il n'y a qu'un seul fruit. C'est le fruit que l'esprit produit en nous. Et Paul dit, professant la vérité dans la charité. Pour dire que le fruit de l'esprit en question, c'est l'expression du caractère de Christ. La maîtrise de soi, la bonté, la fidélité, la patience. Les fruits englobent tout cela. Et souvent, certains théologiens, en décortiquant le fruit, comme je l'ai dit, tout tourne autour de l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand on parle de la paix, la joie plutôt, on dit que la joie, c'est l'expression de l'amour. La paix, c'est la sécurité de l'amour. La patience, c'est le soubassement de l'amour. La bonté, c'est la traduction de l'amour. Et toutes ces choses tournent autour de l'amour. Que Paul appelle chez les Éphésiens ou chez les Corinthiens, charité, l'amour de Dieu. Professant la vérité dans la charité. Je suis vrai en aimant mes frères. Quand je vous aime dans les vrais. Je ne suis pas faux quand je parle de l'amour. Je suis vrai quand je parle de l'amour. C'est ce que Dieu attend de nous. Et toutes ces choses, c'est des caractères de Christ. Sommes-nous des vrais? Y a-t-il encore des femmes samaritaines qui peuvent dire vrai? Où sommes-nous des faux comme des Ananias, des Saphira, des Acor, voire Théasie? Marcher dans la vérité, signifie mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu. Professant la vérité dans la charité, afin que nous croissions à tous égards. Professant la vérité dans la charité, c'est le caractère de Christ. Tout ce qui est dépeint dans le fruit de l'esprit, nous le voyons en Christ. Et c'est ce que l'Esprit Saint veut produire en nous. Être chrétien, ce n'est pas d'abord le don spirituel, mais premièrement, le fruit de l'Esprit. Qu'on sache que tu es vraiment chrétien. Acte 11, 26, à Antioche, pour la toute première fois, quand ils ont vu les disciples, ils ont vu leur manière de faire, leur manière de prier, leur manière de travailler, leur manière de se comporter. Ils ont vu Christ en eux. Et il y avait déclaré à Antioche que les disciples firent appeler pour la toute première fois chrétien. Ça veut dire comme Christ. Est-ce que quelqu'un peut se mettre là où il est? Et dire à Dieu, je veux être comme Jésus.